Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Benaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit de la lecture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour une nuit consacrée à la lecture. Ce samedi 19 janvier 2019, un peu partout dans l'Hexagone et aux Antilles, à La Réunion, à Tahiti, mais aussi sous bien d'autres fuseaux horaires encore, au Japon, à Taipei, à Chicago, au Québec, au Brésil, à Madagascar, en Afrique, en Europe, à l'occasion de la 3e édition de la Nuit de la Lecture, les portes des librairies, des bibliothèques, des instituts et des lycées français s'ouvrent pour célébrer la lecture et l'encourager. Et ici, aujourd'hui, dans le studio des Nuits de France Culture, c'est également la Nuit de la Lecture, avec un programme d'archives qui interrogera cette relation intime et complexe qui unit le lecteur à un texte. Qui sont ceux que nous entendrons parler de la lecture et de leur lecture dans cette nuit? Des noms et des voix célèbres, Roland Barthes, Marguerite Duras, Julien Green, Jean Villard, Alberto Manguel, Pierre Dumayet, Charles de Gaulle dans le souvenir de son petit-fils, et des voix anonymes, lycéens, enseignants, ouvriers et employés à quelques décennies de maintenant. Que lisons-nous? Pourquoi lisons-nous? Comment lisons-nous? Que se passe-t-il quand nous lisons? Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette action propre à des milliards d'êtres humains depuis des millénaires? Lire. Autant de questions qui jalonneront cette nuit de la lecture, pour laquelle j'ai demandé à deux lectrices de nous accompagner, deux lectrices qui écrivent elles-mêmes, Michel Gazier et Judith Siboni. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Alban.
Pour commencer, n'y allons pas par quatre chemins et posons d'emblée la question simple et cependant vertigineuse, qu'est-ce que la lecture ?
Il est évident que c'est seulement dans la mesure où le lecteur lira vraiment, c'est-à-dire qu'il se subrogera à l'auteur au fur et à mesure de sa lecture, qu'il fera, si vous voulez, acte de commutation, comme on parle d'un commutateur, qu'il ouvrira la lumière, qu'il allumera, enfin qu'il tournera le bouton et qu'il recevra la lumière. C'est seulement donc le lecteur qui fait le livre lui-même en le lisant. Et il lui est demandé un acte qui n'est pas quelque chose comme un jeu au sens de jeu de société, mais un acte révolutionnaire, un acte qui comporte le risque de se révolutionner soi-même.
Nous venons d'entendre Francis Ponge au micro de Philippe Solers en 1967 sur France Culture. Comment recevez-vous ce que l'on vient d'entendre de Francis Ponge? Qu'est-ce que la lecture pour vous ou selon vous? Quand y a-t-il lecture? Michel Gazier.
Moi, je crois qu'il y a lecture un peu tout le temps. Je crois qu'une fois qu'on a découvert la lecture, une fois qu'on a compris que ces signes qu'on avait sous les yeux, tout à coup, avaient un sens, on ne peut plus arrêter. On commence à... On lit tout. On lit les affiches, on lit les mots sur le pot de Nescafé, on lit les livres, bien sûr. Je crois que la lecture, c'est quelque chose dans le... C'est un mouvement dans lequel on rentre à petits pas et qui s'accélère. Et c'est ça le bonheur de la lecture, c'est de, d'être toujours en relation avec le monde, un autre monde et son propre monde.
Et vous, Judith Siboni, quand pouvez-vous dire « je lis » ou « j'ai lu » ?
Eh bien, comme dit Francis Ponge, au moment où j'ai l'impression que la lumière s'allume, peut-être. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette image. Je suis d'accord avec Michel Gazier, qu'il y a une espèce de continuum entre la joie de lire des pubs dans la rue, la joie de l'enfant. Il se trouve que j'ai des enfants en bas âge et que je vois bien cette magie, ce jeu comme ça de déchiffrer des mots et puis ensuite quelques années après, hop, de lire des volumes de 500 pages. J'ai les deux cas, mais à quel moment on peut dire qu'on lit? Effectivement, cette idée de lumière et peut-être d'être co-auteur, enfin d'avoir l'impression de de construire avec l'auteur de ce qu'on lit quelque chose d'intime.
Vous-même, avez-vous grandi au milieu des livres et des lecteurs, Judith Siboni ?
Tout à fait. Des livres, des lecteurs, des écrivains. Oui, pour moi, le livre était une chose évidente. On ouvrait un livre comme on ouvrait une porte, quoi. Et c'est vrai que ça facilite sans doute le rapport au texte.
Michel Gazier, n'avez-vous eu qu'à tendre la main pour accéder à la lecture ou le chemin a-t-il été plus raide ?
Non, je n'ai eu, moi aussi, comme Judith, qu'à tendre la main. J'ai eu la chance d'avoir des parents lecteurs et autour de ma famille, enfin, et un oncle en particulier qui a arrêté tous travaux à l'âge de 50 ans pour finir sa vie à 88 ans en ne faisant que lire. Donc voilà, c'était ce milieu-là, la lecture, c'était le bonheur et c'était le bonheur. Voilà, il y avait comme dans le jardin, on tend la main, on cueille la pomme et là on cueillait des livres. Cela dit, ça n'est pas toujours évident pour un enfant d'être dans ce milieu-là. J'ai le cas dans ma famille, celle que j'ai créée, puisque j'ai deux filles. Ma fille cadette, qui, comme vous, Judith, vit avec des écrivains, des critiques littéraires, voilà, des tas de gens qui sont dans le livre, avait décidé qu'elle ne lisait pas, ou plus exactement, qu'elle ne voulait pas qu'on voit qu'elle lise. Et donc, j'ai découvert très très tardivement que, en fait, si elle était tellement fatiguée le matin et qu'elle avait des poches sous les yeux, c'est parce qu'elle lisait la nuit en cachette. Donc, voilà, le trop de livres ou le beaucoup de livres peut donner des réactions tout à fait différentes. Il n'en reste pas moins vrai que mes deux filles sont aussi des lectrices et l'une d'elles est même une éditrice.
Et même en cachette, elle lisait. Donc voilà. La rébellion était limitée.
Voilà. La rébellion était limitée. J'ai des exemples d'amis chez lesquels la rébellion était plus franche et où on ne lisait pas. Enfin, des enfants qui ne lisent pas parce qu'il y a trop de livres. Mais non, chez nous, c'était une rébellion douce.
Passer l'apprentissage de la lecture, lire, est-ce que ça s'apprend selon vous, Judith Siboni ?
Tout à fait. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, je peux l'affirmer, maintenant que ça fait un petit moment que je suis sur Terre, c'est l'étude de texte. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot. La vraie lecture, c'est quand on se demande en lisant, je pense, pourquoi telle phrase ? Enfin, quand on fait de l'analyse de texte, j'ai eu la chance d'adorer ça et d'y avoir accès dès les petites classes, en fait, je me souviens de répondre à des questions sur des textes. Alors, c'était des questions de compréhension, mais le plaisir, finalement, de développer tout ça. Et ensuite, avec mon fils, petit, 6 ans, 7 ans, de lui dire, tiens, tu sens là pourquoi cette phrase, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, etc. L'étude du texte, voilà.
Michel Gazier.
Alors, moi, c'est un peu différent parce qu'en fait, j'ai été prof, j'ai été enseignante pendant 13 ans. Et donc, l'étude de texte, je l'ai pratiquée avec des gens qui n'étaient pas forcément tous
vous étiez de l'autre côté.
Voilà, extrêmement réceptifs. Je crois que j'aime, effectivement, cette appréhension, cette manière de déceler ce qui est dit sous la phrase, sous le rythme. J'aime lire à haute voix. Je lisais beaucoup à haute voix quand j'étais prof et puis aussi pour mes enfants, parce que je crois qu'une bonne lecture, c'est déjà une explication de texte.
Hein.
Donc
fait.
Voilà, c'était ça. Cela dit, la réception n'était pas forcément à la hauteur de mon enthousiasme et je crois que si on veut donner la passion de lire à des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs, lire à haute voix passe bien, faire de l'explication de texte ou une fiche de lecture passe mal.
Mais alors justement, explication de texte, fiche de lecture, moi je dis étude et j'ai failli être prof parce qu'effectivement j'adorais ça, j'ai poussé assez loin cette pratique de l'étude de texte. Je considère qu'en étant critique de théâtre, je continue, enfin c'est pour ça que je fais ça, c'est pour être au contact des textes, voir les regards que d'autres posent dessus. Et pour moi, une bonne mise en scène, c'est une étude de texte, mais pas au sens laborieux effectivement de la fiche de lecture, mais au sens joyeux de la gymnastique intellectuelle qu'on peut apprendre effectivement dans des classes un peu élitistes. Mais encore une fois, moi j'ai eu l'impression d'y avoir été initiée très tôt, hein, dès la fin de la primaire, en fait, dès qu'on lit des livres. Alors, après, c'est une question de perception, mais moi, je milite pour ça, hop, et j'assume.
Oui, ben, je peux dire que, ayant pratiqué la critique littéraire pendant 25 ans, je suis dans ouais, ce...
On est d'accord.
Voilà, dans ce camp-là. Le rapport que j'ai pu avoir à mes élèves, je n'ai plus d'élèves depuis très très longtemps, mais il m'arrive encore d'en rencontrer parce que j'ai noué des liens avec eux. Et ce dont ils me remercient, c'est de leur avoir appris à lire. Mais peut-être parce que justement j'ai essayé de rester un petit peu à l'extérieur, de pas être trop intrusive. Et ceux qui ont compris ce que c'était que la lecture, je pense qu'ils en éprouvent du plaisir maintenant. Sur le moment, je reste beaucoup plus prudente.
Mais justement, l'école est-elle, peut-elle être le lieu de la formation d'un lecteur ? La lecture n'est-elle pas plutôt du côté de la dissidence, voire de la désobéissance ? Judith Siboni.
Pour répondre à votre question, je pense à une des archives qu'on écoute cette nuit, l'archive produite par Antoine Speer dans une usine.
Usine Renault de Sandouville, une archive de 1979.
Archive captivante et bouleversante et réjouissante, enfin tout, où un ouvrier parle spontanément et naturellement de textes qu'il a étudiés à l'école et dit qu'il continue à lire son manuel scolaire de troisième. Et voilà, c'est un élément de réponse à votre question, je trouve. Parce que oui, l'école, c'est contraignant, mais là aussi, enfin, je suis un peu réac ou idéaliste ou je ne sais quoi, mais je pense que c'est quand même là que l'essentiel se joue pour les gens qui, contrairement à Michel Gazier ou moi, ne sont pas nés dans une bibliothèque. Et de ce point de vue, vraiment, ce témoignage d'ouvrier est éloquent.
Alors moi, je suis absolument d'accord, évidemment, avec une restriction qui est la fameuse fiche de lecture. Vous allez dire que je suis obsédée, mais j'ai vu les ravages que pouvait faire la fiche de lecture. La fiche de lecture, c'est une contrainte. Donc la lecture, je crois que si on veut que ce soit quelque chose de qui apporte, la lecture, c'est une histoire d'amour. Et une histoire d'amour, on fait pas de fiche sur son amour. On peut en parler, mais on fait pas de fiche. Et je crois que c'est cette contrainte, ce carcan petit 1, petit 2, petit 3, etc., qui fait que les élèves sont paumés face à ça et qu'il faut qu'ils répondent à des questions qui ne sont pas forcément les questions qu'ils ont vues dans le texte. Parce que vous, Judith, qui aimez beaucoup l'explication de texte et suivre le texte, mais chacun a sa perception d'un texte. Et on peut avoir une perception, je lis Madame Bovary, je vais trouver chez Madame Bovary un certain nombre d'éléments qui vont faire écho dans ma propre vie. Parce qu'on lit avec sa vie, bien entendu. Et les enfants aussi lisent avec leur propre vie. Donc, je pense que si on me demandait de faire une fiche chez Madame Bovary pour parler de ce que c'est qu'une pharmacie en Normandie...
Je ne sais pas qui demande ça dans les fiches de lecture. C'était un autre temps.
Oui, pas forcément un autre temps, parce que j'ai des enfants et des petits-enfants. Mmh. Et quand il m'arrive de faire des travaux le mercredi avec ma petite-fille qui est à Henri IV... au collège, il y a parfois des questions qui lui sont posées qui me font hurler, parce que ça n'est pas possible. On ne peut pas faire aimer la lecture à des enfants en traitant le livre et la littérature de cette manière-là. Donc ça n'est pas seulement un souvenir. Finalement, les souvenirs de mon école sont lointains. Moi, je crois que je suis comme cet ouvrier de Sandouville dont vous parliez. Moi, je me souviens, petite fille, même s'il y avait beaucoup de livres à la maison, il y avait un livre de lecture, quand on avait été sage, on avait le droit de l'emporter. Et c'est comme ça que pour la première fois de ma vie, j'ai lu des fragments de Don Quichotte, qui ne m'a jamais abandonné, et j'avais 6 ans. Et je ne donnerai pas mon âge, mais j'en ai beaucoup plus.
Ouais, moi aussi, bien qu'étant née dans une bibliothèque, enfin pour le dire vite, le OCP, dès que j'ai su lire, je restais parfois pendant les récréations pour connaître la suite du récit super intelligent et réjouissant que notre maître avait composé pour nous. Et voilà, toute l'école, bien sûr.
Enseigner à lire, telle serait la seule et véritable fin d'un enseignement bien entendu, Que le lecteur sache lire et tout est sauvé. Ces mots sont de Charles Péguy. Croyez-vous, vous aussi, que la lecture peut tout sauver ? Michel Gazier.
Je crois que la lecture peut sauver beaucoup de choses. Je crois que c'est Julien Green qui dit dans l'archive que nous allons écouter cette nuit que les grandes peines, non, la lecture ne l'aide pas à passer les grandes peines. Mais c'est vrai que tous les guets de la vie, tous les trous de l'existence, tous les choses qui vous bousculent, etc. Je crois que la lecture aide à les franchir. Passer du temps dans un livre, c'est s'abstraire à une réalité qui parfois n'est pas très drôle. Mais je voudrais rajouter une chose à propos de l'apprentissage de la lecture, parce que pour arriver à ce bonheur de promenade dans le livre, encore faut-il savoir lire. Quand je dis savoir lire, c'est savoir déchiffrer. Et l'un des grands problèmes de la lecture actuellement, c'est que les enfants savent de moins en moins déchiffrer rapidement et ils se heurte à une difficulté qui est celle d'un texte qui est hermétique, non pas parce qu'il est hermétique intrinsèquement, mais il est hermétique parce que ils ne savent pas lire de manière fluide. Donc je crois que la première chose à acquérir, c'est cette aisance avec la lecture, aisance qu'on avait quand on était, comme Judith, dans des familles qui lisaient, qu'on n'a pas forcément dans une famille qui ne lit pas.
Après, c'est une discipline aussi de l'éducation. Pour moi, j'ai un enfant de 9 ans et un enfant de 4 ans et demi. Dans une école, alors certes dans le centre de Paris, mais où il y a des enfants, pas mal d'enfants dont les parents ne parlent pas trop français. Et je vous assure qu'à la fin de la grande section de maternelle, tous sont au bord de la lecture, tous. Et qu'en primaire, tous lisent. Très, très bien. Donc après, c'est la responsabilité de l'État et de la République tant qu'ils existent. Voilà.
Quand j'ai préparé cette nuit, je vous ai demandé qui vous aimeriez entendre parler de la lecture. Michel Gazier, vous m'avez dit Pierre Dumayet. Et vous, Judith Siboni, vous m'avez répondu Roland Barthes. Pourquoi Roland Barthes, Judith Siboni ?
Parce que pour moi, la pensée sur... j'ai pas d'autre formule sur le plaisir du texte, c'est-à-dire sur la lecture. C'est Roland Barthes et c'est d'abord ce petit texte fondamental qui s'appelle Le plaisir du texte. Et voilà, dès qu'il s'agit de penser la lecture et la littérature, on va chercher Barthes.
Nous entendrons donc Roland Barthes au micro de Georges Charbonnier en 1967, cette époque de grands bouleversements théoriques et littéraires, du nouveau roman, du structuralisme, du post-structuralisme, de la revue telle qu'elle, des grandes théories de l'écriture et de la lecture, le plus souvent très radicales. Comment voyez-vous cette époque-là aujourd'hui ? Quel en est l'héritage d'après vous, Judith Siboni ?
Eh bien, je dirais que c'est une époque qui nous marque encore, du moins je l'espère. Et en même temps, ce qui est frappant quand on se penche de près sur les textes de Solers ou de Barthes, c'est qu'il y avait pas de purisme structuraliste ou anti-classique ou anti-narratif, etc. On aurait tendance à penser qu'à la lumière de ces années-là, on a fait fi du roman, du grand roman du 19e, etc. Mais en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est excitant, c'est cette complexité de la pensée. Je relisais un peu le plaisir du texte en venant ici. Et finalement, il n'y a pas d'opposition entre texte de plaisir et texte de jouissance. Et Flaubert, mais aussi Zola, ont leur place dans le palmarès. Voilà, Barthes, il parle de Solers avec autant de d'émoustillement peut-être que de romanciers du 19e siècle. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. En fait, on a tendance à caricaturer cette époque et cette façon, voilà, le nouveau roman, etc. Mais il y a aussi un souffle épique dans tout ça. Moi, c'est ça qui me plaît de chercher l'épique dans le nouveau roman et peut-être le côté abstrait de certaines littératures plus classiques. Voilà.
Michel Gazier.
Oui, je trouve qu'il y a une dimension dans le plaisir du texte. Moi, je me souviens quand le texte est sorti, je m'étais précipitée pour aller l'acheter. Et il y a une phrase qui est restée. Alors peut-être que je ne l'ai pas relue là récemment, mais c'est plaisir de relire Proust, on ne saute jamais les mêmes passages. Et je trouve que ça, c'est vraiment ça le plaisir de la lecture et cette intelligence de Barthes de dire on a le droit de jouer avec le texte parce que le texte, il est ludique et que ce côté ludique du texte, il faut en user et en abuser et que c'est ça le bonheur de lire.
Nous entendrons tout à l'heure Pierre Dumayet au micro d'Alain Weinstein dans Du jour au lendemain en 2000. Pierre Dumayet, lecture pour tous, il était bien évidemment naturel qu'il ait sa place dans cette nuit. Mais pourquoi y teniez-vous particulièrement Michel Gazier ?
Je tenais particulièrement à Pierre Dumayet pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un que j'ai bien connu, que j'aimais beaucoup et avec qui j'ai beaucoup échangé sur la lecture. Et ensuite, j'aurais peut-être pu commencer par là. Pendant mes années de critique littéraire à Télérama, j'ai couvert les émissions littéraires et j'ai en particulier couvert cette émission qui s'appelait « Lire, c'est vivre ». Et que j'ai à cette occasion vu sur la chaîne de montage l'émission, ils étaient toujours en retard et donc j'allais sur la chaîne de montage et je voyais comment l'émission se recollait, se composait et donc ces fragments de vie, puisque c'était des voix de gens les plus, voilà, les gens de la rue, des gens entre guillemets ordinaires, des lecteurs à qui Dumayet proposait un livre et ils le lisaient tranquillement chez eux, ils soulignaient les passages qui les avaient sollicités et ils venaient expliquer devant la caméra pourquoi ils avaient choisi ces passages. Et je me souviens en particulier d'un Germinal qui avait été donné à lire à des gens d'Alès, des anciens mineurs et des femmes d'anciens mineurs, puisque les mines d'Alès étaient déjà mortes, fermées, mais la culture de la mine était toujours là. Et les entendre parler, elles parlaient au présent de ce qu'elles lisaient, et c'était leur vie. Elles disaient, mais oui, mais là, c'est exactement ça. Mais tu, disait-elle à une autre, mais tu te souviens. Et elles se souvenaient comme si elles étaient dans le livre. Or, Germinal, c'était le siècle d'avant, c'était les corons du Nord, et c'était pas à l'aise, même si cette culture de la mine... Et là, je crois que j'ai compris, je prends cet exemple-là, mais j'en ai bien d'autres. Je crois que c'est là, j'ai compris comment la lecture pouvait entrer dans la vie de gens qui ne faisaient pas d'explication de texte, mais qui lisaient comme ça, de front. Qui lisaient de front et ces textes rentraient dans leur vie et leur vie rentrait dans ces textes. Et j'ai trouvé cet échange tellement extraordinaire que, voilà, Pierre Dumayet, et aussi parce que c'est l'homme qui a le plus lu, je crois que c'est dit dans l'archive, Madame Bovary, et qui a travaillé sur les manuscrits de Proust. Et il y a encore des films qu'on ne voit plus, mais qui sont absolument extraordinaires là-dessus. Et Pierre Dumayet, pour moi, c'est vraiment la lecture.
Dans l'archive que nous entendrons, Pierre Dumayet dit que nous ne pouvons pas ne pas relire les livres et les auteurs qui comptent pour nous. Ce serait comme ne pas revoir ses amis. Lire, n'est-ce pas avant tout relire ? Judith Siboni.
Oui, c'est vrai que cette idée m'a frappée dans cette archive-là. Et ce qui m'a frappée et éblouie, c'est que dans l'émission produite dans l'usine de...
Renaud Sandouville.
Sandouville,
en 1979.
Voilà. Eh bien, plusieurs ouvriers interviewés disent la même chose exactement. Et donc, moi, je suis d'accord avec Pierre Dumayet et avec les ouvriers de Renaud Sandouville.
Lire, c'est avant tout relire, Michel Gazier.
Oui, alors ça, c'est la grande frustration de la critique littéraire que j'ai été. C'est-à-dire que quand on est pris par le flot de l'actualité, on a très peu l'occasion de relire. Ça arrive sur votre table, hein, vous devez connaître ça parfaitement. Et puis, relire. Alors, évidemment, heureusement, de temps en temps, il y a un Pléiade qui vous permet, hop, de relire quelque chose, mais on est dans cette actualité. Et je me suis toujours donné au moins un mois l'été, et maintenant davantage, pour relire. Parce que relire, c'est le bonheur. C'est retracer un chemin dans un jardin qu'on connaît. C'est le voir différemment. C'est l'éclairer différemment. C'est, comme dit Barthes, pas sauter les mêmes passages parfois. Mais c'est se retrouver chez soi. Et en fait, je crois qu'un texte qu'on a lu qu'une seule fois, il nous échappe, on va l'oublier. Mais un texte qu'on a lu deux, trois et plus que ça de fois, c'est un texte qui vous est familier, il est dans votre chair.
Judith Siboni.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Michel Gazier. Hélas, même quand on n'a pas pour métier de faire de la critique de livres, donc quand on n'est pas tenu par l'actualité des parutions, je crois qu'on a du mal à s'autoriser ce luxe d'aller relire les classiques qu'on a étudiés en classe. C'est la définition du classique. Et j'aime, oui, si les gens qui nous écoutent, il faut vraiment qu'ils osent ressortir tout Zola un par un, tout Balzac, à tout âge. Et je sais que moi, ça étonne toujours mon entourage de me voir avec toujours mon Balzac, mon Zola, en plus de ce qui sort et qui m'intéresse aussi. Ça étonne les gens, mais oh là là, de coup, ils se privent de tout un monde.
Et en plus, pour la critique littéraire, c'est extrêmement important, parce que quand on est pris dans le flot de l'actualité la plus vive, on perd les repères. Et donc, ce qui était absolument essentiel, c'était de lire un classique pour me redonner la norme d'une écriture, qui a passé des siècles.
Nous allons justement entendre un grand relecteur interrogé par Pierre Dumayet dans Lecture pour tous en 1959.
Je voudrais vous poser une toute dernière question, maître. Des romans que vous aimez, des livres que vous aimez, vous dites qu'ils sont habitables. Pouvez-vous me dire ce que vous entendez par là?
Eh bien, j'entends par là. Je trouve que ça a pour moi une très grande signification. Je me demande souvent, vous comprenez, si mes cadets, si les livres que mes cadets aiment, je pense à l'Ulysse, par exemple, de Joyce, si l'ayant lu, ils y reviennent souvent, vous comprenez. J'appelle un livre habitable, j'appelle une œuvre habitable, une œuvre comme celle de Balzac, ou de Dickens, ou de Proust, dans laquelle j'entre, je sors. Bon, voilà, j'ai aujourd'hui, je suis septuagénaire, n'est-ce pas? Eh bien, je peux dire que depuis 40 ans, et même depuis 50 ans, j'habite Balzac. Et j'habite Dickens, et j'habite Dostoïevski, et j'habite Tolstoï. Vous comprenez ce que je veux dire? J'y entre et j'en sors tout le temps. Moi, je prends un Balzac, mais à chaque instant. À chaque instant, je prends un Balzac. Et j'ouvre. Je prends Proust à chaque instant. Eh bien, je me demande, car il y a des livres comme mes KDM que j'aime aussi. Mais par exemple, j'aime profondément Kafka, l'homme Kafka. Mais ces livres, je les ai lus une fois, mais plutôt crevé que d'y rentrer. Je n'ai jamais envie de recommencer un cauchemar, vous comprenez? Moi, j'ai une peur terrible des cauchemars. Ça ne m'empêche pas d'aimer profondément Kafka, son journal, oui, ses lettres, oui, tout ce qui est lui, oui. Mais ces romans que j'admire, je les ai lus une fois et je n'y reviendrai jamais, vous comprenez?
Merci.
Voilà là.
Partagez-vous avec François Mauriac cette notion d'œuvres que l'on peut habiter, dans lesquelles on se sent chez soi, et donc d'autres dans lesquelles on l'est moins et dans lesquelles on n'a pas envie de retourner. Judith Siboni.
Ce que je partage, c'est la vivacité de son, et la spontanéité de...
La liberté même.
Voilà, de son ton. Ça me parle et ça me touche. Alors après, oui, j'aime bien aussi l'idée qu'on peut choisir des livres plus ou moins habitables selon ses affinités profondes. En tout cas, j'adhère et j'aurais pu le dire aussi que je retourne dans Balzac tous les jours, à chaque instant, et peut-être plus que lui dans Kafka. Mais j'aime bien cette idée aussi de qu'on cherche, qu'on est bien. Pour reprendre cette image, chez tel ou tel auteur, quand on sent que c'est vraiment lui, donc qu'il préfère les correspondances ou le journal de Kafka à ses romans, ça me touche, ça le fait monter dans mon estime, Mauriac.
Michel Gazier.
Oui, bien sûr, il y a des œuvres habitables parce qu'on a décidé, enfin pas parce qu'on a décidé, on les a rencontrées, c'était un coup de foudre, et on a envie de les revisiter, de les habiter. Moi, je sais pas, Le Quichotte est une œuvre que je revisite régulièrement, Proust, idem. Des œuvres que je n'ai pas envie de relire, il y en a aussi un certain nombre, parce que elles ne m'ont sûrement pas apporté, ou peut-être est-ce que je ne savais pas au moment où je les ai lues, je n'étais pas réceptive. Parce qu'il y a un âge pour lire les choses. Moi, je dis toujours, j'ai lu Proust en entier 3 fois. Et 2 fois, sans aimer, j'étais très jeune. Et je ne suis pas rentrée. Je n'avais pas l'âge. pour rentrer chez Proust. Et puis, j'attendais ma deuxième fille et je me suis dit, j'ai du temps, parce qu'il faut aussi ça, du temps. J'ai du temps, je suis en congé de maternité, donc je vais relire Proust. Et là, je suis tombée dans la marmite et depuis, je ne cesse de lire, pas forcément un entier.
Mais d'y retourner.
D'y retourner. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Jusque-là, j'étais trop frileuse peut-être, trop jeune ou trop verte. Et il fallait être plus souple, plus ouvert. Et là, c'est une fois qu'on rentre, voilà, il y a des œuvres, on se dit, je n'y arrive pas, mais... Il n'y a pas de rempart imprenable. Je crois qu'on peut rentrer si on se laisse le temps.
Et a-t-on vraiment raison d'associer systématiquement la lecture au plaisir ? La lecture peut être au contraire parfois une expérience exigeante, violente, voire douloureuse.
Oui, j'avoue qu'il y a des livres que je ne suis jamais arrivée à lire. Pour des raisons qui me sont obscures, mais le jour où les raisons ne me seront pas obscures, peut-être est-ce que je les lirai. Je peux donner L'homme sans qualité, par exemple, je ne suis jamais arrivée à le lire. Voilà, c'est comme ça, je me fais appeler, voilà, mon mari adore L'homme sans qualité, autour de moi les gens adorent L'homme sans qualité. Et moi, je suis restée au seuil. Alors,
oui, il est dans ma to-do, liste de livres à lire.
Mais il y a aussi des livres que l'on lit avec passion, mais avec douleur parfois, des lectures qui sont plus difficiles. Judith Siboni.
Oui, je réfléchis. En tout cas, passion. Je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite, mais j'ai par contre le souvenir très clair de moi pleurant, souffrant et étant très très heureuse de pleurer, souffrir, etc. Ça fait beaucoup rire mon mari quand il est à côté de moi. Et même, je pense qu'il est un peu... Je pense que des gens... Enfin, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde aller de comme ça être en fusion, en empathie. C'est une manière de lire, peut-être un peu lyrique, peut-être féminine, peut-être, je ne sais pas.
Il y a aussi des livres que l'on se promet de lire, que l'on voudrait lire et que l'on ne lit jamais. Avez-vous comme ça des titres vers lesquels vous marchez à reculons depuis toujours ? L'homme sans qualité.
Voilà, L'homme sans qualité, effectivement.
Oui, on m'a plusieurs fois dit que je ressemblais à Diotima. Enfin, un personnage féminin dans ce livre, et du coup, ça aurait dû me faire courir. Et en fait, toujours pas, mais comme je le disais, il est dans ma to-do list, et peut-être que, contrairement à Michel Gazier, ça va me captiver, mais je sais toujours pas.
Ouais. Et il y a aussi les livres, les textes sur lesquels on tombe comme par hasard à certains moments de sa vie. Êtes-vous des lectrices sensibles à ces correspondances mystérieuses entre les œuvres et votre propre existence ? Êtes-vous du genre à vous laisser guider par ce que le hasard des lectures peut avoir de magique ? Judith Siboni.
Le hasard des lectures est forcément magique. Donc la réponse est oui. Effectivement, j'aime bien le hasard, c'est-à-dire aussi, il y a des livres comme ça qui traînent, qui viennent de sortir, et puis donnons leur chance, ou alors pire, hein, des auteurs très, 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 très catalogués, parfois branchés à la mode ou pas, mais catalogués. Et hop, magie de la rencontre fortuite qui fait qu'on découvre que, en tout cas pour nous, pour moi, il ne colle pas tout à fait à l'étiquette initiale. J'espère que j'en parlerai si vous me demandez quels sont les auteurs contemporains qui m'inspirent, par exemple.
Michel Gazier.
Oui, en fait, je reviens toujours à ces 25 ans d'expérience de critique littéraire qui ont fait que... J'ai eu beaucoup de rencontres qui étaient inattendues. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont bouleversée, qui continuent à me bouleverser parce que je continue à lire. Ça n'est pas parce que je n'écris pas, mais enfin, je suis quand même dans une actualité de littéraire qui fait que je continue à lire des choses qui sortent en moins grand nombre. Mais c'est le principe même. Enfin, je veux dire que ce qui est merveilleux, c'est de découvrir un premier roman. Et il y a certains auteurs dont j'ai découvert le premier roman et que j'ai suivi et qui sont des gens que je continue à admirer. J'aime les commencements. Donc je suis par exemple au jury du prix du premier roman, parce que je trouve que un premier roman, c'est quelque chose d'important. Judith vient d'en publier un. Je crois que c'est ça, c'est la naissance d'un écrivain, c'est ça qui est intéressant. Après, on a des rendez-vous avec des auteurs déjà connus, qu'on a plus ou moins connus soi-même, mais qui ont déjà une surface, une réalité. Mais les étrangers qui viennent d'être traduits, qui sont pas forcément des premiers romans, et les premiers romans, c'était ma gourmandise de critique littéraire.
Dumayet, Des Groupes, Max Paul Fouché, Lecture pour tous, Le Masque et la Plume, Italique, Apostrophe, Bouillon de Culture, autant d'émissions littéraires qui ont marqué des générations d'auditeurs et de téléspectateurs. Quel rôle ont-elles joué dans votre histoire de lectrice, Michel Gazier?
Alors, étant donné ma longue pratique à côté de ces émissions, j'ai souvent couvert ces émissions comme critique. Donc elles ont joué ce rôle. Bon, je lisais parfois, souvent, des textes que je n'aurais pas sélectionnés a priori, mais que je découvrais à travers une émission. Donc elles ont accompagné mes lectures, elles ont ouvert aussi un certain nombre de portes que je n'aurais pas forcément ouvertes, pas toujours pour mon plaisir. Il y a des choses, bon voilà, je couvrais, mais c'était vraiment pas mon goût. Je crois que c'est très important, la critique littéraire et l'horaire à laquelle elle est diffusée. Moi je vois comment, par exemple, quand Apostrophe était en prime time, le nombre de gens, et je crois que c'est dans une des émissions, oui, que nous avons écoutées, quelqu'un le dit.
C'est dans l'émission, l'émission 1979 à Sandouville. Oui. Un des ouvriers dit que l'émission passe à une heure. Non, c'est Pivot lui-même qui dit que les ouvriers se plaignent de l'horaire tardif de diffusion.
Tard, oui. Que ça ait été retardé, parce que Apostrophe, c'était à une heure très, très facile. Et après, c'est passé à 10h du soir, de début à 10h du soir. Donc évidemment, c'était plus compliqué. Et c'est vrai qu'elles ont un rôle. Et elles ont un vrai rôle. Et comment dire, je crois que les textes dans la presse écrite ont moins de portée actuellement qu'ils n'en avaient, parce que la presse écrite perd des lecteurs. Mais je crois que la radio et la télévision, il y a peu de choses à la télévision, mais les radios qui parlent de livres, moi je sais que j'écoute avec plaisir, je ne suis pas la seule, et que c'est une ouverture et que c'est aussi une autre manière de découvrir la littérature. On peut aller en librairie, mais il y a tellement de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand il m'arrive de faire une émission sur un de mes livres à la radio, c'est là où j'ai le plus de retours, voilà ce que je peux en dire.
Judith Siboni, on entendra Bernard Pivot donc dans cette nuit. Vous étiez bien jeune pour Apostrophe, mais par contre, est-ce que Bouillon de Culture a été pour vous un rendez-vous télévisuel?
Franchement, je suis désolée, je vais décevoir tout le monde à cette table, mais même si j'étais plus grande pour Bouillon de Culture que pour Apostrophe, en fait, pour moi, ça a correspondu peut-être à un moment où j'ai plus regardé la télé. Donc, à la limite, Apostrophe, j'étais toute petite, et puis c'était l'émission que regardait ma mère avec passion, donc à la limite, plus présente dans ma mythologie, enfin, dans mon imaginaire. Et j'avoue que, en fait, moi, j'ai assez peu suivi tout ça. J'ai aimé assez vite lire de la critique, de la bonne pointue critique littéraire, mais pas tellement la télé. Désolée.
La télévision a quand même joué longtemps un rôle important dans les pratiques de lecture du public, les émissions littéraires dont on vient de parler, mais je pense aussi à une série comme Un siècle d'écrivains, par exemple. Dans une des archives que l'on entendra, Bernard Pivot dit que les adaptations télévisuelles de grands auteurs comme Balzac, Maupassant ont influencé les lectures des téléspectateurs, relancé les ventes de certains auteurs. Comment les lectrices que vous êtes vivent-elles en général au cinéma ou même à la télévision les adaptations d'œuvres de romans qu'elles aiment particulièrement? Judith Siboni.
Moi, je suis très, très pour et souvent enthousiaste. Je regarde pas tout, mais comme je suis pour le plaisir, contrairement à, d'un côté, je dis que j'aime bien les critiques bien pointues, mais en même temps, pour raviver un type de plaisir, et de toute façon, ce qui compte, c'est le plaisir du récit, etc., bah, souvent, je trouve que ça chouette, réussi. D'ailleurs, moi, je rêve, je le dis. J'avais même un projet avec une productrice télé là-dessus, qui peut-être verra le jour, de faire en mode série, comme les séries d'aujourd'hui, les Rougon-Macquart, hein, c'est-à-dire en accent beaucoup les choses sur la folie, sur la faille, sur tout ce qui fait les bonnes séries d'aujourd'hui. Hop, les Rougon-Macquart, par exemple, ce serait super, et ça n'a pas été fait, je vous le dis.
Michel Gazier.
Moi, je me souviens de effectivement des émissions, enfin dramatiques, ça s'appelait comme ça, si je ne m'abuse, de la télévision française que nous regardions en famille. Mes parents aimaient beaucoup, moi aussi. Mais je dois dire que quand il s'est agi du cinéma, j'ai fait pour Télérama à une certaine époque, j'ai visionné tous les films adaptés de romans. Qui sont dans le gros volume qu'ils avaient publié sur le cinéma. Et quand j'avais vraiment beaucoup aimé le roman, j'étais toujours un peu déçue par l'adaptation cinématographique que je trouvais grandiloquente et qui me donnait envie de retourner à la lecture du livre. Maintenant,
mais c'est déjà ça justement. Oui, même quand c'est faible, ça a le mérite de.
Oui, mais dans la mesure où la lecture, c'était une relecture à laquelle j'étais conviée et je me disais que bon, je n'ai pas été très tendre, je dois dire, sur mes avis, sur ces adaptations. Mais en revanche, je ne les ai pas revues, mais j'ai quand même le sentiment que tout ce qui a été fait à la télévision à une certaine époque était d'une grande, grande qualité. Ils ne cherchaient pas à nous épater. Ils restaient très près du texte.
Voilà,
et que le texte était là.
Tout à fait.
Et cette humilité de donner le texte à lire et à voir et à mettre des images sur le texte, là, je crois que c'était vraiment bien. Mais j'ai le sentiment aussi que le cinéma veut peut-être en faire beaucoup et que à ce moment-là, la seule adaptation de que j'ai trouvée absolument sublime, c'est Jean de Dublin, le film adapté de Blenheim, adapté de Blenheim, et c'est une nouvelle et c'est la nouvelle. Enfin voilà. Après on va relire. C'est du bonheur, que du bonheur. Mais c'est très rare au cinéma.
Michel Gazier, Judith Siboni, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit de la lecture. Dans un instant, entretien avec Roland Barthes, cinquième partie, par Georges Charbonnier en 1967. Comment on devient lecteur ? Première émission de la série Quinzaine de la lecture, proposée par Luc de Caunes en 1967. Puis Marguerite Duras, première des deux émissions pour lire à la veillée, proposée par Luc de Caunes dans Quinzaine de la lecture en 1967. Et j'en profite pour signaler aux auditeurs que la deuxième partie sera diffusée la nuit prochaine. Nous retrouverons dans un peu plus de 2 heures pour la deuxième partie de notre entretien. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Alban.